Voilà, bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette soirée où on va partager encore la parole de Dieu, partager le sujet du monde invisible. Ça a suscité quand même de l'intérêt, hein, de l'intérêt. Beaucoup m'ont dit que c'était vraiment intéressant d'aborder ces sujets. Donc merci Seigneur, hein, voilà, c'est lui qui fait, c'est lui qui inspire. Avant d'aller plus loin, est-ce que ça a suscité des questions? Est-ce que vous avez, un peu comme la dernière fois, est-ce que vous avez peut-être une question ou deux avant de démarrer ensemble? Et ensuite, on ira un peu plus loin dans cette étude biblique sur le monde invisible. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si on est entre nous, en famille. Voilà. Maintenant, après, si c'est. Bon, je vous prends à froid ou à chaud, comme vous voulez. Mais là, il fait plutôt froid dehors, je trouve. Voilà. On va prier. En tout cas, on va prier. On va remettre ces moments au Seigneur. Que le Saint-Esprit dirige cette soirée comme il l'a fait pour les soirées précédentes. Seigneur, merci pour ces moments dans ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Et nous prions afin que dans cette soirée, ta parole encore soit cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier, que nous puissions toujours la considérer comme notre seule référence en matière de foi. Merci de nous bénir encore dans cette soirée, de nous donner ta lumière, de nous donner ton inspiration, ta grâce, et que ta parole puisse trouver toujours un écho favorable dans notre cœur, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous avons partagé ces dernières semaines sur ce fameux sujet du monde invisible. On a considéré quelques versets importants de base, je dirais. Donc, quand il est écrit dans Colossiens, chapitre 1er au verset 16, car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Nous avons évoqué le monde invisible. Et on a notamment parlé du monde spirituel, le côté sombre, si vous voulez, de ce monde invisible. On a parlé de Satan, on a parlé des démons. Est-ce que, avant d'aller plus loin, ça vous intéresserait d'avoir les notes? Les notes, oui. Alors, qui, par exemple, n'est pas intéressé par les notes? Comme ça va être clair. C'est pas obligé, hein. Certains, l'audio, ça leur suffit. Donc les notes, ça t'intéresse pas forcément. Donc est-ce que, sinon à part tout le monde, est-ce que on peut compter le nombre de personnes? Voilà, je vois, il y a Céline au fond ou quelqu'un d'autre, de compter le nombre de personnes. Comme ça, on tirera pour dimanche et vous aurez qu'à récupérer les notes dès qu'elles seront prêtes. On vous les mettra à disposition. Voilà, on me les a demandés aussi. Ça sera plus simple comme ça. On en tire un paquet et puis tout le monde pourra les avoir. Donc, on a parlé de ce fameux, cette entité, Satan, si vous voulez, qui est la cause de nos problèmes, de nos souffrances, de nos difficultés. On a parlé aussi des démons, de Satan et des démons, qui sont malheureusement une source aujourd'hui encore de problématiques. Alors je ne vais pas revenir sur toutes les notions, vous aurez les notes comme promis, et puis vous pouvez réécouter sur Internet. Plusieurs personnes m'ont dit qu'elles ont même écouté plusieurs fois les messages sur Internet, parce que c'est vrai, quand on parle comme cela, eh bien on va un peu vite, on glisse sur certains aspects. Voilà, c'est important. Alors ce soir, on va voir un troisième aspect. On va parler des anges. Voilà, on a parlé de Satan, des démons, nous allons parler des anges. Donc les anges, la Bible tout d'abord ne mentionne que les anges, le diable et les démons. Il n'y a pas d'être intermédiaire, je dirais d'esprit neutre, comme le perçoivent ou le conçoivent beaucoup de religions, comme l'animisme, l'hindouisme, l'islam. Les autorités, pouvoir et puissance, souvent citées dans Colossiens et Éphésiens, relèvent de ces catégories anges et démons. Donc ça, c'est, on va dire, l'avis des plus grands spécialistes ou théologiens. Actuellement, il y a des fausses doctrines qui courent et qui consistent à enseigner qu'il y a des êtres mi-hommes, mi-anges, des êtres hybrides, si vous voulez. C'est une fausse doctrine. Comme on le verra plus tard, les anges ne peuvent pas se reproduire. Ils ne peuvent pas faire des bébés. Voilà. Ce qu'ils sont, les anges, ils sont des créatures de Dieu. Donc on vient de le lire, on a lu plusieurs fois ce verset, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les autorités, trône, dignité, domination, autorité, tout ça sont des concepts du vocabulaire pour exprimer des forces spirituelles. Donc ils sont des créatures, donc n'oubliez pas d'éteindre vos portables s'il vous plaît, et de même ils ont été créés dans le Fils, par lui et pour lui. Ils sont appelés poétiquement les anges, fils de Dieu. On voit cela dans le livre de Job, au chapitre 1er par exemple et au verset 6, quand il est dit « Or les fils de Dieu ». Vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc il y avait les anges, les êtres célestes et Satan là au milieu d'eux. Et ils sont appelés ici, puisque vous le savez, Job, les psaumes, Ecclésiaste, Proverbes, etc. sont des livres poétiques. Donc ils ont un langage poétique et il faut le lire de cette manière-là. Donc ils sont appelés de cette manière-là. On lit aussi dans Job 38 et au verset 7e, il est dit « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Donc ça, c'est lorsque les êtres humains, la créature de Dieu, n'avaient pas encore été créés, c'est antérieur à la création humaine, à la créature humaine, mais les anges étaient déjà là. Ils étaient là lors de la création du monde et ils sont appelés poétiquement fils de Dieu. Alors toujours ce qu'ils sont, ils sont des esprits, si vous voulez, des vents, des souffles, c'est le vocabulaire de l'Ancien Testament, ils sont des esprits au service de Dieu et des hommes. On lit cela dans Hébreux, au chapitre 1er, Hébreux chapitre 1er, verset 13, il est dit ceci, Hébreux chapitre 1er verset 13 « Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » verset 14 « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Donc les esprits, les anges sont des esprits au service de Dieu, mais aussi envoyés pour exercer un ministère, un diaconat, un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire vous et moi. Ils sont à notre service. Dans la définition en hébreu, le mot ange, c'est malak, qui signifie messager et envoyé. Et dans le grec, ce mot signifie Agelos, qui signifie également messager et envoyé. Alors on peut le confondre avec le ministère d'apôtre ou de responsable d'église. Vous savez, dans les lettres de l'Apocalypse, à plusieurs reprises, le Seigneur dit à Jean, écris à l'ange. Vous vous rappelez cette expression, par exemple, on le lit dans Apocalypse 2, verset 1er, écris à l'ange de l'église d'Éphèse, toujours chapitre 2, verset 8 de l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, ou verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Ce n'était pas un courrier à envoyer aux êtres célestes, mais c'est un courrier à envoyer à l'ange, l'envoyé, c'est-à-dire le responsable spirituel de l'église ou des églises de l'Asie mineure de l'époque. Donc un mot qui peut être employé à double usage. Donc je me présente, Yvan Cassar, ange de l'église de ciel ouvert, Saint-Étienne du Rouvray. Mais voilà, ceux qui me côtoient de près savent très bien que je ne suis pas un ange, encore que. Conservons le mystère des anges. Alléluia. Alors, il y a différentes catégories, ou si vous voulez, différents types d'anges. Comme un petit peu, il y a, on l'a vu, en ce qui concerne les démons, vous avez vu que Jésus a dit, cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que cette catégorie-là, il y a dans le monde des esprits, des forces plus puissantes que d'autres. Et c'est pour ça que Jésus va dire, pour cela, cette catégorie-là, ben, mes amis, il faut jeûner, il faut prier, ça peut prendre du temps et du combat, ça ne sort pas comme ça. Encore une fois, je rappelle que ce n'est pas le jeûne en soi, d'accord? Ce n'est pas parce que je vais jeûner que par mérite, je vais avoir plus de puissance ou je ne sais quoi. Ce n'est pas des points que je marque, mais quand je jeûne et je prie, je me dispose à augmenter ma foi. Vous avez remarqué que quand nous jeûnons, que nous nous privons de nourriture, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand je m'éloigne des choses de la terre pour me rapprocher des choses de Dieu, je fortifie ma foi et par conséquent, ma foi étant plus forte, plus confiante face aux défis, etc., eh bien, j'aurai plus d'autorité spirituelle parce que qui doute n'obtient pas. Mais tout ce que vous demanderez en croyant, en priant, croyez, parce qu'on peut prier sans croire, que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Il y a la foi naturelle et il y a ce que la Bible appelle le don de foi, qui est une foi surnaturelle qui nous est donnée à des moments particulier, où là, comme Samson face au lion, on est capable de renverser des montagnes, d'aller voir et de faire face à des situations extraordinaires. Mais quand on revient au naturel, ben on est comme tout le monde. On est naturel. Je faisais une visite aujourd'hui sur Dieppe et la personne me disait que dans l'épreuve qu'elle a vécue, alors que c'est une personne inquiète de nature, elle me disait qu'elle se sentait vraiment paisible et portée par la grâce de Dieu. Parce que, eh bien, le Seigneur, dans ce moment-là, lui a donné ce que j'appelle moi la grâce particulière. Alors, il y a des entités, des forces, des catégories d'esprits, autant dans le monde des ténèbres que dans le monde de la lumière, des catégories d'autorité spirituelle plus ou moins fortes. Plus ou moins fortes. Il y a même, j'ose le dire, ministère et ministère. Vous voyez, Paul, par exemple, avait une autorité spirituelle qui était sans doute supérieure à certains ministères qu'il avait autour de lui. Paul était une autorité reconnue, une autorité spirituelle, une autorité morale. On le voit, la Bible parle de ceux qui, avec le temps, la fidélité et autres, se sont acquis un rang honorable. Vous savez, tous les êtres, même humains, n'ont pas la même qualité. Il y a, la Bible parle dans l'Écriture de femmes de qualité. Dans les Actes des Apôtres, il est question des femmes de qualité. Donc tout le monde même si nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu, mais il y a des personnes de qualité. Daniel, un homme bien-aimé, alléluia. Vous êtes des bien-aimés du Seigneur, amen. Donc il y a des catégories, des types d'anges différents. Par exemple, il y a ce que la Bible appelle les chérubins. Les chérubins, on a entendu parler de Satan qui, lui, avant d'être cet ange déchu, il était un chérubin protecteur. Il avait une grande autorité, il a été corrompu par sa sagesse. Les chérubins sont des êtres très lumineux et avec une grande sagesse. Et ils sont protecteurs de la présence et de la gloire de Dieu. Il est dit dans Ézéchiel 10, verset 1er, « Je regardais et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir, on voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. » Dans le psaume 80, j'ai noté au verset 1er, il est dit, et au verset 2, prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, paré dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Alors on sait que les chérubins, on ne va pas entrer dans les détails, mais ils ont des aspects particuliers. Ils ont une face de bœuf, d'homme, d'aigle. C'est pas des extraterrestres, mais ce sont des êtres animés particuliers avec une. Ézéchiel les décrit avec beaucoup de détails. Ils sont des êtres glorieux autour du trône. Alors j'avance, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a aussi dans cette catégorie-là, dans une autre catégorie d'anges, ce qu'on appelle les séraphins. On voit cela dans Ésaïe chapitre 6 et au verset 2. « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. » Une troisième catégorie d'anges, ce sont les archanges. Un autre type d'ange, Jude 1, verset 9, et là on a même le nom de cet archange, il est dit « Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Donc là on a l'archange Michel. Ou Michael. On sait que Michel ou Michael, il se disputait avec le diable, est un ange guerrier. Il est défini comme cela dans Apocalypse 12, verset 7. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Donc il y a des guerres spirituelles. Et Michael est un ange guerrier au service de l'Éternel des armées. Alléluia. Et puis, il y a les anges, on va dire plus simples. Et là, donc, ils sont innombrables. Hein. On a par exemple dans Daniel chapitre 8 et au verset 16, il est question de l'ange Gabriel, qui est nommé aussi. Daniel dit « J'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï, il cria et dit « Gabriel, explique-lui la vision » et Daniel 9, 21 encore « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. » Ce que je peux dire aussi concernant les anges, puisqu'on le voit dans la parole de Dieu lorsqu'on étudie ce sujet, il est question aussi de l'ange de l'Éternel. Vous avez remarqué, souvent dans l'Écriture, il y a de nombreux textes aussi qui évoquent l'ange de l'Éternel. Alors l'ange de l'Éternel est une catégorie à part. L'ange de l'Éternel représente Jésus avant l'incarnation. L'ange de l'Éternel, pratiquement toutes les fois où il apparaît dans l'Ancien Testament, il représente Jésus avant son incarnation. Jésus n'est pas né à Noël. Jésus est venu à Noël, il a été engendré, il n'a pas été créé à Noël. Il est de toute éternité, il est Dieu. Amen. Et il a été engendré par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Par exemple, on peut lire dans Exode chapitre 3, la notion de l'ange de l'Éternel, Exode chapitre 3, et au verset 2, il est dit « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. » On voit aussi dans Juges, vous pourrez voir à la maison si vous voulez, Juges chapitre 6 au verset 12, lorsqu'il est apparu également à Gédéon. L'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. Alors, plusieurs catégories de types d'anges, cet ange-là de l'Éternel est une catégorie à part. Amen. Alors, quelques caractéristiques concernant les anges maintenant. Alors, naturellement, les anges sont puissants. Ils sont puissants, ce sont des forces, des autorités. Il est dit dans 2 Rois, chapitre 19 et au verset 35, « Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel, donc il est question de l'ange de l'Éternel, sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes, et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. » Puissance. Exercice de puissance. Apocalypse 5, verset 2, « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre. » Bon, ça fait beaucoup de références, hein, mais vous aurez les notes. Apocalypse 10, verset 1er, « Je vis un autre ange puissant. » Et on voit également 18, 21, Apocalypse. « Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule. » Donc les anges sont des êtres puissants, redoutables. Ils peuvent faire du bien, on va le voir, mais vous avez vu qu'ils peuvent également exercer des jugements. On va le voir tout à l'heure. Donc, quelques caractéristiques encore. Ils sont rapides et ils volent. On l'a lu dans Daniel au chapitre 9 et au verset 21. « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. » Donc, ils sont rapides et ils volent. Je ne sais pas s'ils se déplacent à la vitesse de la lumière, je n'ai pas chronométré, mais ils vont vite. Et vous savez, ils vont vite aussi pour venir nous secourir. Ils peuvent venir vite. La Bible dit qu'ils sont également très nombreux, des myriades. On voit cela dans Hébreux chapitre 12, au verset 22. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades que forme le cœur des anges. » Ils sont donc innombrables, très nombreux. Vous pourrez regarder également à la maison, on vous donnera les notes, Apocalypse 5, verset 11. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, ils n'ont pas de sexe. Ils n'ont donc pas de problème. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas de tentation sexuelle. Ils sont libres de toute forme d'appétit sexuel. Il est dit dans Matthieu 22, verset 30, « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Ça veut donc dire qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Et j'insiste sur le fait que par conséquent, il ne peut pas exister des êtres hybrides. Voyez, comme ce que certains enseignent, mi-ange, mi-homme. Ils ne peuvent également pas mourir. Il est dit dans Luc chapitre 20 au verset 36, « Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges. » et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Donc les anges sont des êtres éternels. Ils ne peuvent pas mourir. Ils ne peuvent pas se reproduire n'ayant pas de sexe et ils ne peuvent pas mourir, ils ne peuvent pas disparaître, être annihilés. Les anges ont des émotions, ils peuvent se réjouir. La Bible dit dans Luc chapitre 15 et au verset 10, vous connaissez ce texte, « De même, je vous le dis, il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Donc les anges savent apprécier la repentance des pécheurs. Ils savent apprécier la repentance des pécheurs par la joie. Et ils se réjouissent devant Dieu. Ça va ? Les anges, donc, également, neuvième caractéristique, habitent le ciel. Il est dit dans Luc 2, verset 15, « Lorsque les anges les eurent quittés, après l'apparition, moi j'ai été à Bethléem, on voulait y aller, on voulait retourner, on y retournera Dieu voulant à Pâques, mais à Bethléem, dans les prairies de Palestine, quand ils sont venus annoncer la venue du Messie, il est dit ensuite, lorsqu'ils ont chanté les cantiques, la chorale, etc., en annonçant la venue de Jésus, en annonçant la bonne nouvelle. Amen. Ça va ? L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ils sont venus dire gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée, parmi les hommes de bonne volonté. Donc, n'ayez pas peur, etc. Dieu nous est favorable. Et c'était pourtant l'armée céleste. Mais une armée, je dirais, désarmée, puisque le Christ a été frappé. Alléluia. Vous avez vu dans le tabernacle, puisque c'est l'enseignement, on peut donner des détails. Par exemple, dans le jardin d'Éden, les chérubins avaient une épée pour empêcher l'accès au jardin. Tandis que dans le tabernacle, dans le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, il y a les séraphins qui sont dessinés, les anges célestes, mais ils n'ont pas d'épée. Et il est dit que nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a le sang. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, parce que là où les hommes jugent, Dieu fait grâce. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, par le vieux cantique, ah, venez, venez en foule, alléluia, et parce que de la croix, la grâce coule par intermittence. Non, elle coule de temps en temps. Non, elle coule constamment, comme un fleuve. Et on peut venir boire à la rivière de la grâce de Dieu, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça fait du bien dans l'enseignement de glisser la bonne nouvelle. Amen. Voilà. Et les anges chantent, ils sont désarmés, l'armée céleste apparaît du haut des cieux, et il est dit que lorsque les anges, Luc 2, 15, les eurent quittés pour retourner au ciel. Ils sont rentrés à la maison. Ils ont fait un aller retour. Ils habitent, les anges, le ciel. Les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Une autre caractéristique, 1 Pierre 3, 22, les anges sont soumis à Jésus. Les anges, à part les anges rebelles, qui, je rappelle, quand on parlait des démons, on l'a dit, un tiers des anges, c'est beaucoup. N'oubliez pas, frères et sœurs, et j'enfonce le clou dans cette étude biblique, que l'orgueil, quelques-uns, dit Paul aux Corinthiens, se sont enflés d'orgueil, et les pièges du diable consistent à faire tomber la créature dans le même piège où lui est tombé. Et la Bible dit que ces anges était soumis à Dieu, mais un tiers a suivi Satan dans sa rébellion. Et il est dit, toutefois, ceux qui sont restés, c'est-à-dire les deux tiers, la majorité quand même, hein, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Vous vous rappelez de ce passage, c'est la parole du prophète lorsqu'il était assiégé à Dothan et que son serviteur avait peur. Il veut dire, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie, parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Les anges sont en majorité, les êtres célestes. En plus, nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc on n'a bien sûr rien à craindre. Donc il est dit, 1 Pierre 3, 22, Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Une autre caractéristique, ils seront jugés, les anges, par les croyants de la nouvelle alliance. Il est dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Encore une caractéristique, les anges interviendront dans le cadre de la seconde venue de Jésus. Par exemple, ils ont déjà annoncé la seconde venue de Jésus dans Actes 1, 10 et 11. J'avance vite, mais lorsque les disciples étaient là, le jour de Jésus est parti, il a été enlevé, et les anges vont s'adresser aux disciples en disant « Mais de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel, il reviendra. » Et ce sont des anges qui se sont adressés aux disciples qui étaient là, bouche bée. Nous voyons que Jésus reviendra avec ses anges. On voit cela dans Matthieu au chapitre 25 et au verset 31 et 32. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, nous voyons, donc je vous le lis, 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, il est dit, non, c'est pas 2 Thessaloniciens, il fallait bien que je me trompe. C'est pas grave, je fais l'impasse sur cette référence. On peut regarder dans Matthieu 24, 31. Donc là, on voit toujours que Jésus revient avec ses anges. Matthieu 24, 31. Et ils rassembleront les élus. Donc là, on est toujours dans le cadre du retour de Jésus. Matthieu 24, 31. Il enverra ses anges, rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Et puis encore, ils feront le tri lors du retour de Jésus, séparant les méchants qu'ils jetteront dans la fournaise ardente. Voilà, donc c'est le rôle des anges lors de la seconde venue de Jésus. Il est dit ceci, Matthieu 13, verset 49, « Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc les anges interviendront dans le cadre de la seconde venue de Jésus et ils rassembleront les élus et feront le tri, séparant les méchants d'avec les justes. Et puis, actuellement, la Bible dit qu'ils adorent Dieu, donc ils adorent le Seigneur. On voit cela, c'est une autre caractéristique, dans Hébreux, toujours, au chapitre 1er, et au verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et on voit cela également dans Apocalypse, chapitre 7, et au verset 11. Apocalypse, chapitre 7, verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Voilà donc quelques caractéristiques des anges. Maintenant, de même que les démons s'opposent au plan de Dieu, les anges, eux, contribuent à l'exécution du plan et des desseins de Dieu. Rappelez-vous, on disait tout à l'heure, ce sont des esprits au service de Dieu. Ils servent Dieu et ils servent aussi ceux qui doivent hériter du salut. Donc leur rôle, à contrario des démons, et il est positif. Il fait avancer la lumière, ils se battent pour cela. Certains personnages de l'écriture, de la Bible, ont eu affaire directement à eux. Directement affaire aux anges. Alors, je veux peut-être avant tout faire une petite mise en garde pour dire attention de ne pas tomber dans ce que la Bible appelle le culte des anges. Le culte des anges. Ça veut dire quoi ? Le monde invisible existe, évidemment, le monde visible aussi existe, mais de ne pas prêter une attention exagérée aux anges. Ce sont des serviteurs, je dirais, discrets, qui n'ont pas besoin qu'on leur cause, qui n'ont pas besoin qu'on entre en contact avec eux. S'ils viennent nous donner des informations, gloire à Dieu, mais il est question nullement dans l'Écriture de relation, de communion, d'intimité avec les anges. Certains poussent le bouchon, selon moi, un peu trop loin, comme s'il fallait connaître, pour être un bon chrétien, notre ange gardien. On ne voit pas cela dans l'Écriture. Nous savons que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger, mais ce sont des serviteurs, des esprits discrets. Notre relation est, vous savez, comme dit la Bible, il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Notre seul point de contact avec Dieu, c'est Jésus-Christ et la personne du Saint-Esprit, puisque la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 ou 2 Corinthiens... Attendez, je ne veux pas dire de bêtises, j'ai une petite hésitation. Dans 2 Corinthiens 13, il est dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. 2 Corinthiens 13, verset 13. Donc on a une communion avec Dieu, on a une communion avec Jésus, on a une communion avec le Saint-Esprit, évidemment. Qui dit communion, dit relation avec le Saint-Esprit. Donc une mise en garde, avant d'aller plus loin dans le rapport des anges avec les hommes. Colossiens 2,18 dit « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil pensé par ses pensées, charnel. » Alors, certains personnages de la Bible ont eu affaire à eux directement. On voit cela dans le livre de la Genèse, au chapitre 19 et au verset 1er, dans l'histoire de Lot, quand Dieu a décidé de détruire Sodome, Dieu va envoyer deux anges le visiter de façon très personnelle, et il est dit ceci, « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Donc on a là la visite de deux anges chez Lot, deux anges, deux esprits, mais qui là ont pris une apparence humaine. Et vous avez remarqué, il leur parle, il cause avec eux, il leur fait même changer leur plan. En fait, ça correspond à ce que dit l'apôtre aux Hébreux dans Hébreux 13, 2. « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. » Quand je vous disais que, on ne sait jamais. Donc faites attention à qui vous recevez dans votre maison, ou à qui vous ne recevez pas d'ailleurs. Daniel a expérimenté des visitations nocturnes. Il est dit à plusieurs reprises, Daniel a été même protégé par les anges lorsque, vous savez, qu'il a été jeté dans la fosse au lion. Il est dit dans Daniel 6, verset 22, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. » Donc Daniel a, dans cette nuit, été au bénéfice du ministère des anges. Alors ne me demandez pas comment ça s'est fait, mais ça s'est fait. Et les lions n'ont pas pu le toucher parce qu'il y avait là une présence spirituelle invisible qui a empêché ces lions. Et ils avaient faim, hein, parce que lorsque, au petit matin, ceux qui l'avaient accusé vont être jetés dans la fosse avec leurs enfants, c'est assez moche, eh bien la Bible dit qu'ils vont se jeter sur eux. Voyez ? Donc Daniel a été protégé par l'ange que le Seigneur a envoyé. Les anges, dans le ministère de Daniel, l'ont instruit et se sont entretenus avec lui. Il est dit dans Daniel chapitre 9 et au verset 22, concernant l'ange Gabriel, « Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Et Daniel va entrer dans des révélations divines. Un autre cas particulier, c'est le cas de Zacharie. Dans Luc chapitre 1er, Luc chapitre 1er et au verset 19e, il va aussi faire affaire ou avoir contact, Zacharie, avec l'ange Gabriel. Il est dit dans Luc, chapitre 1er, au verset 11, « Alors un ange du Seigneur, il était dans le sanctuaire de Dieu, il offrait des parfums pour le peuple, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. » Verset 12, « Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. » Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur, etc. etc. » Et au verset 18, « Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrais-je cela car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» Verset 19, l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Et verset 20, « Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Zacharie va, à cause de son incrédulité, être jugé. Et il va être muet tout le temps de la grossesse de son épouse. Vous savez que les anges peuvent exercer des miracles, on parlait dimanche des miracles extérieurs, intérieurs, etc. Ils peuvent exercer des miracles de jugement. Ils peuvent exercer des jugements, y compris dans le Nouveau Testament. Et on le voit dans les Actes des Apôtres, lorsque Hérode se glorifiait, la Bible dit qu'un ange du Seigneur le frappa et il tomba mort, rongé par les vers. Parce qu'il n'a pas donné gloire au Seigneur. Vous savez que plus on s'approche de Dieu, et plus on doit avoir la crainte respectueuse de Dieu. On ne peut pas faire et dire n'importe quoi. Et la patience, il ne faut pas exaspérer, je crois, la patience de Dieu. Même la patience de Dieu, c'est notre salut, mais Dieu peut décider à tout moment d'exercer des jugements. Hein. En tout cas, on le voit dans l'Écriture. On le voit dans l'Écriture. On voit qu'ils peuvent exercer des jugements. Alors, il y a beaucoup de références, je vais vous les épargner. On voit cela dans Actes, donc ce que je viens de citer, c'est Actes 12, 23. Dans Apocalypse, bien sûr, toutes les ouvertures de sceaux, etc. Dans Apocalypse 16, 1 et 2, on voit que des jugements vont, dans les temps de la fin, venir sur la terre et s'abattre sur les nations. Les anges, une autre étude de cas, dans la personne de Joseph, le père adoptif de Jésus, qui recevra des instructions très précises en matière de direction. Il fallait que Jésus vienne sur la terre, qu'il soit préservé. Jésus va confier à Joseph et Marie, un couple pieux. Ils savaient qu'ils allaient obéir. Ils savaient qu'ils seraient prêts à prendre des risques pour que le plan du Seigneur s'accomplisse. Joseph et Marie vont mettre leur vie en péril pour que le plan du Seigneur s'accomplisse. Et Joseph va voir apparaître. Alors les anges peuvent apparaître de façon directe, ouverte, mais là dans des songes, la nuit, des anges lui apparaître et lui donner à chaque étape l'instruction nécessaire pour que le plan de Dieu s'accomplisse. On voit cela par exemple dans Matthieu 1, 20. Il pensait se séparer de Marie quand elle va lui dire qu'elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit ». Matthieu 1, 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Matthieu 12, verset 13, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut encore en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Donc, et ensuite, quand Hérode est mort, Matthieu 2, 19, quand Hérode fut mort, vous savez qu'il a fait tuer tous les enfants premiers-nés d'Israël. Voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, etc. » Donc Joseph va recevoir des instructions très précises concernant la direction à prendre pour son foyer. Pour son foyer. Est-ce que Dieu peut faire cela encore aujourd'hui ? Bien sûr. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Et il parle par des visions nocturnes, nous dit l'Écriture. Mais encore faut-il être ouvert à ces choses-là. Voyez, il y a des églises qui ne croient pas à l'exercice même des dons spirituels, au charisme, aux dons de puissance, de guérison, etc., etc. Et mais nous croyons aux manifestations du Saint-Esprit, et nous croyons que Dieu peut employer encore différentes manières pour nous parler. Bien sûr, Jésus, lors de sa venue, a été au bénéfice du ministère des anges. Lorsqu'il fut dans le désert, il a été servi par les anges. Il est dit dans Marc chapitre 1 et au verset 12, « Or, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. » On voit Jésus à Gethsémané qui sera donc Luc 22, verset 43, Gethsémané, il est dit que Jésus sera fortifié par un esprit, par un ange. Il est dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Donc on voit que le ministère des anges a aussi contribué au succès du ministère de Jésus. Est-ce que je peux dire, pas que le Saint-Esprit, hein? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a fortifié ici, c'est un ange qui est venu alors qu'il combattait, qu'il était en lutte, en proie à une tension extrême, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et bien sûr, on va dans les Actes des apôtres maintenant, on voit Pierre, les apôtres, qui vont être au bénéfice, Pierre, Paul, des hommes comme Philippe, qui ont été au bénéfice du ministère des anges. Lorsqu'ils étaient emprisonnés, vous vous rappelez de cela, lorsque Pierre est en prison, les apôtres sont en prison. La Bible dit, par exemple, Actes 8, 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend, une instruction. » Non, c'est pas ce que je voulais lire. Acte 5, 19, pardon. « Un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir. » Donc les apôtres ont été libérés de prison par un ange du Seigneur. Pierre le sera également dans Actes 12, 7 à 11. « Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la maison, dans la prison, et l'ange réveilla Pierre. » Donc des visites angéliques pour venir au secours des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui étaient dans l'épreuve et dans la difficulté. Ils étaient en prison et les anges viennent. Alléluia. Et les libère, les libère. Paul au milieu de la tempête, c'était le chaos, c'était la débandade. Ils ne savaient pas s'ils allaient survivre. Acte 27, verset 23, « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. » Et il m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. » Autant de textes qui nous montrent que les anges continuent d'agir dans la nouvelle alliance et pour les hommes de Dieu, pour l'Église, pour les aider à accomplir la mission du Seigneur. Alors, est-ce que vous n'aimeriez pas, vous aussi, recevoir des instructions du Seigneur ? Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous aussi, expérimenter surnaturellement, les anges parlent ? Je note, c'est ce que je lisais, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il reçoit une instruction céleste par un ange. Alors, est-ce que nous ne voudrions pas tous et toutes entrer, je dirais, dans cette dimension-là spirituelle, parce qu'on parle des combats spirituels, des démons, de Satan, mais il y a aussi, heureusement, à notre service, des êtres de lumière qui sont là pour nous aider, encore une fois discrets, mais réels, et qui peuvent intervenir pour nous donner des coups de main dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia ! C'est ce que je voulais vous dire ce soir concernant un petit peu le ministère glorieux des anges. Voilà, c'était riche, très dense aussi. On va peut-être pas aller plus loin, je vais pas vous saturer, mais est-ce que vous auriez peut-être un retour à faire, une question concernant le ministère des anges que nous avons là évoqué, et peut-être vous aimeriez revenir sur ces choses. Dieu voulant, la prochaine fois, pour redescendre aussi un peu sur terre, si je puis dire, pour ne pas tout spiritualiser, on parlera de la nature humaine, pour ne pas non plus confondre, il faut du discernement. Il y a des choses qui peuvent venir du monde des esprits, mais il y a des choses qui sont de l'ordre du naturel. On a la tête dans le ciel, mais on a les pieds sur la terre. Et il est important d'avoir les pieds sur la terre et de réaliser qu'il y a des choses aussi naturelles. Et on va étudier, en Dieu voulant, avec l'aide de Dieu, on va étudier la composition de l'être humain. notre nature, ce que nous sommes, et parce que nous avons besoin aussi d'appréhender notre vie naturelle. Voyez, autant le monde céleste, le monde des esprits existe, mais tout n'est pas d'origine spirituelle. Voyez, par exemple, quand on parle de certaines maladies, il y a des maladies qui peuvent venir du monde spirituel. Si on parle de... Il y a des maladies d'ordre psychosomatique. Il y a des maladies... Vous voyez, si on parle de... Peut-être pas de zona ou de maladies de peau. Il y a des gens qui ont... Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces maladies... Le psoriasis, voilà, par exemple. Le psoriasis, est-ce que c'est forcément spirituel? Vous voyez, est-ce que ça... Il y a des maladies comme cela. Est-ce que les maladies mentales, la schizophrénie, ou est-ce que c'est forcément d'origine spirituelle? Vous voyez, il y a des choses qui peuvent être le stress au travail, sans que ce soit ténébreux. Une vie déréglée, si on ne dort pas, si on n'a pas une bonne hygiène de vie, peut avoir un impact aussi sur notre nature humaine. Dieu a créé la nuit pour dormir. Donc si on vit de façon déréglée et qu'on n'a pas une vie équilibrée, eh bien, il ne faudra pas chercher forcément des causes spirituelles à ce genre de choses. Si vous êtes environné de gens qui vous stressent, qui sont pas sympas et qui vous mettent la boule au ventre, c'est pas forcément le diable. Ce sont des gens qui sont pas sympas. Voilà. La Bible parle des méchants. Hein, voilà. Donc qui peuvent vous fournir une certaine dose de stress et vous donner du psoriasis. Donc il s'agirait pas de chasser les démons là où il n'y a pas lieu de chasser les démons. Il ne faut pas qu'on soit comme Don Quichotte qui chasse des choses qui n'existent pas ou qui n'ont. Ils existent, mais ce n'est pas nécessairement l'origine et la source de notre problème. Donc, c'est pour ça que je pense que ça pourrait être bien d'étudier aussi la nature humaine, une nature qui aussi, disons-le, est fragile. Et marqué par le péché. Voilà, donc on étudiera tout cela. D'ailleurs, j'avais à cœur de le faire ce soir, mais je me suis dit, je vais conclure le monde invisible de façon positive en parlant des anges, de ces êtres célestes qui aussi sont des réalités spirituelles qui nous entourent et qui nous aident dans la guerre. Voilà. Donc, une question ici qu'on va prendre. Voilà, le micro est ici. Donc, relève ta main, s'il te plaît. On va te donner le micro. Voilà. Et on va essayer de répondre avec l'aide du Seigneur.
En fait, c'était plus une précision qu'une question. C'est par rapport à les mystères des anges, bien qu'ils soient au service de ceux qui doivent donc hériter la vie éternelle. Mais il n'est pas question justement d'adorer les anges.
Tout à fait.
C'est à préciser, donc c'est dans Apocalypse 22, versets 8 et 9, tout simplement.
Tout à fait. Il est même question de compagnons de service dans l'Apocalypse. Donc il y a la notion de Apocalypse 19, verset 10 et Apocalypse 22, verset 9. Il est question de compagnons. Il est dit... Apocalypse 19, verset 10, « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. » Voilà, il n'y a qu'un seul Dieu. Hein. Et Apocalypse 22, 9, encore, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. » Ils servent le Seigneur comme nous le servons, mais dans des sphères spirituelles. Merci pour la précision. Oui, ici, une autre question ou remarque.
Concernant les anges, en fait, je me demandais si Dieu, en Jésus-Christ, continuait à destituer certains anges en démons, en fait, ou si c'était bien arrêté et il n'y avait plus lieu d'être.
Voilà, alors la Bible ne le dit pas, en tout cas. Est-ce qu'ils peuvent encore se rebeller ou la Bible ne le dit pas. On ne peut pas dire ce que la Bible ne dit pas. En tout cas, quand on regarde... Le futur, la Bible parle du futur, donc on ne voit pas de désordre à ce niveau-là. les anges restent au service de Dieu, ils vont lier Satan, etc. Donc on a parlé de textes prophétiques, hein, donc il n'est pas question de chute d'anges à nouveau, quoi. Dans le futur, on ne le voit pas en tout cas. Mais c'est une remarque qu'on peut se faire, évidemment. Mais bon, ça, après c'est de la spéculation, c'est plus de l'enseignement scripturaire, quoi. Oui, là-bas, au fond, levez la main et on essaie d'aller vite. Ben là, il faut se lever, amener le micro, sinon demain on y est encore. Hein. Ah là, pardon.
Ça truc mon dos.
Oui, ah, c'est bon.
Du coup, je voulais dire, je me demandais en fait si les anges, ils étaient munis du libre arbitre comme nous. Par exemple, nous, on a le libre arbitre, oui. Croire en Dieu ou pas, suivre Dieu ou pas. Est-ce que tous les anges dans le ciel, ils ont ce libre arbitre, oui, ou ils sont programmés d'une façon à ce qu'ils adorent Dieu et suivent Dieu?
Ben, c'est un peu ce que vient de dire David. Moi, je pense qu'ils ont exercé leur libre arbitre une fois lorsqu'ils ont suivi Satan dans sa chute. Mais ensuite, il semblerait que maintenant, ils suivent Jésus et le Seigneur. Ils lui sont soumis. Hein, on a lu un texte. Ils lui sont soumis désormais.
Oui, il est question aussi que nous jugerons les anges.
Oui.
Alors, quelques précisions là-dessus m'intéressent.
Oui, alors, quelques précisions qu'on ne trouve pas tellement. Vous savez, il y a de la même manière que la Bible parle du mystère de l'iniquité et des profondeurs de Satan. Tu n'as pas connu les profondeurs de Satan. Je pense que de la même manière, la Bible parle d'être sage en ce qui concerne le bien. Je pense que être sage en ce qui concerne le bien, c'est savoir s'arrêter quand on étudie la parole de Dieu et de ne pas faire parler les silences de Dieu. Quand Dieu, vous savez, il est dit que les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Et après, on peut tomber dans une certaine forme de spéculation. Donc ce que nous savons, c'est que nous régnerons avec le Seigneur, que nous gouvernerons sur les nations. On ne sait pas ce que sera l'avenir quand l'univers est infini. Ce que je pense, ce que je sais, c'est que les anges apprennent, ils plongent leur regard, ils apprennent de l'Église. Et de par la réaction, parce qu'on a le Saint-Esprit, tout cela, ils sont, je pense, émerveillés devant la sagesse infiniment variée du Seigneur. Mais de là après à spéculer sur comment on sera, moi je vais pas au-delà, tu vois, on sera pas devant les anges avec un tribunal, tu vois, puis toi tu vas là, ou toi tu mérites ça, toi tu mérites pas ça. Bon, on jugera les anges, voilà. Après on aura, je pense que ça veut dire que on est l'épouse de Christ en tout cas, et que en position on est supérieur aux anges. Il est dit que tu as été de peu inférieur, pour un temps inférieur aux anges, dans notre humanité corrompue, mais je pense que notre élévation en tant qu'épouse de Christ nous donnera et nous confère en réalité une autorité spirituelle sur les anges, puisque on est proche, une épouse, c'est quand même, il n'y a rien de plus proche que de l'époux, que du Seigneur Jésus. On va se marier aux noces de l'agneau avec le Seigneur, donc on aura une autorité sur la création, sur les anges. Donc après, aller au-delà, bon, voilà. Je pense que là, ce soir, on a vraiment puisé et épuiser tous les textes essentiels sur le ministère des anges. Le ministère des anges. Oui.
Oui, bon, moi j'ai une question. Alors, peut-on demander la protection des anges, je ne sais pas, pour les enfants, quand on part en voyage, ou est-ce qu'on peut demander la protection des anges dans nos prières, hein?
Ouais. Ben, moi, je dirais non.
Non.
Je dirais non parce que d'abord on ne le voit pas dans l'écriture, on ne le voit pas. C'est parce que faut faire, comme je disais, notre relation avec le monde spirituel doit passer par Jésus. Et à partir du et je pense qu'on et surtout dans ce domaine-là, je crois que Dieu sait ce qu'il a à faire et la Bible le dit de toute manière. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ils sont là de toute manière. Certains, je pense, en mobilisent plus que d'autres par les risques qu'ils prennent, je ne sais pas. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire. En tout cas, on ne voit pas dans l'Écriture quelqu'un prier pour « Seigneur, envoie-moi des anges, là, j'ai besoin d'un coup de main. » Voilà, on ne le voit pas. Là, tu as une... J'ai vu une main se lever ? Non ? D'accord. Non. Est-ce qu'il y aurait une dernière question, éventuellement ? Ou remarque ? Et ensuite, on va conclure 7 heures d'études bibliques. Voilà, donc on va terminer ces moments d'études. Merci pour votre attention. Mais Camille, puisque tu as le micro, si tu veux terminer par la prière, merci et que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention.
Seigneur Jésus, merci mon Dieu pour cette soirée, merci pour ces enseignements, Seigneur, je te prie, mon Dieu, encore de parler à nos cœurs, Jésus, je te prie pour qu'on puisse encore étudier ta parole.
Alléluia.
Et Jésus, avec les anges, Seigneur, on veut continuer également à t'adorer, on veut continuer à louer ton nom, Jésus, parce que tu le mérites, Seigneur. Je te prie, Jésus, de bénir mes frères et sœurs, mon Dieu, qui sont venus ce soir. Je te prie de les fortifier, de les encourager et que Jésus puisse encore t'aimer davantage. Amen.
Amen.